et bienvenue pour une nouvelle émission sur J'ai des infos.
Salut Abby.
Salut Yann.
Dis-moi, est-ce que t'as déjà entendu parler de la valeur ajoutée ?
Oula, non jamais.
Dis-toi que ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait pas du tout. Et ça touche tout le monde, même toi devant ta radio. Alors ne zappe pas et reste sur J'ai des infos.
Bon alors Yann, explique-nous ce que c'est. C'est quoi la valeur ajoutée ?
Alors, imagine que tu as un gros gâteau et qu'il y a différents acteurs qui veulent se le partager. Les employés, l'entreprise et l'État. Eh bien le gâteau, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise par l'apport des salariés et des actionnaires, mais aussi de l'État, qui ensuite est répartie entre les salaires et les cotisations sociales pour les salariés, et ainsi que le bénéfice pour les entreprises.
Et les impôts pour l'État. Donc il suffit d'augmenter la part du gâteau pour les salaires, et les Français seront contents?
Non, pas exactement. Car si on augmente une part, une autre diminue. Si on augmente les salaires...
Ah, l'entreprise ne gagnera pas assez et fera faillite, et donc les salariés se retrouveront au chômage.
En ce moment, pour de nombreux économistes, la seule solution serait de baisser les salaires. Mais évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. En réalité, la vraie solution serait de faire grossir le gâteau, comme cela a été le cas pendant les 30 Glorieuses, quand la croissance économique progressait à un rythme annuel de 5% par an. Quand aujourd'hui on atteint 1%, le gouvernement est déjà content. Mais pourra-t-on un jour retrouver une forte hausse de la croissance économique ? C'est ce que nous allons expliquer dans cette émission.
On va donc voir s'il est possible d'augmenter les salaires sans diminuer la part des entreprises, sans inciter les entreprises à licencier parce qu'elles remplacent l'homme par la machine. Un reportage de Emma et Léa.
Le partage de la valeur ajoutée est très important dans les entreprises, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Schématiquement, la valeur ajoutée produite dans l'entreprise est partagée en trois acteurs principaux. Les salariés et les actionnaires qui ont fourni le travail et le capital nécessaire à la production, ainsi que l'État qui prélève pour financer les dépenses publiques. On sait que si la part de la valeur ajoutée attribuée aux salariés augmente, ça va accroître leurs revenus et donc leur pouvoir d'achat et devrait se traduire par une augmentation de leur consommation. Dès lors, la demande adressée aux entreprises devrait augmenter. Celles-ci, recevant plus de commandes, devraient produire plus et pour cela investir dans de nouvelles machines et embaucher de nouveaux salariés. Prenons pour exemple l'Allemagne. Contrairement aux contraintes exprimées par de nombreux économistes, l'instauration du salaire minimum ne s'est pas traduite par des suppressions d'emplois peu qualifiés, mais au contraire, a dynamisé le marché du travail et relancé la croissance.
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. L'entreprise peut avoir des difficultés à écouler sa production, car si elle est la seule à appliquer cette stratégie, elle sera plus compétitive, elle attirera de nouveaux clients et pourra embaucher. Par contre, si ses concurrents appliquent la même stratégie, les entreprises se retrouveront face à une baisse de la demande qui les conduira à réduire la production et à terme licencier. On comprend alors mieux pourquoi le partage de la valeur ajoutée peut donner lieu à des conflits, car chaque acteur veut augmenter sa part, mais cela se fait au détriment des autres.
Par ailleurs, pour que l'augmentation de la production soit durable, il faut que les entreprises puissent développer leur stock de capital et donc financer des investissements. Or, si la part de la valeur ajoutée qui va aux apporteurs de capitaux diminue, l'entreprise peut avoir des difficultés à financer ses investissements. Les banques ne peuvent plus lui accorder des emprunts car elles ont peur de ne pas être remboursées. Les actionnaires hésitent à investir l'entreprise car ils craignent que les dividendes versés seront insuffisants. Enfin, l'entreprise ne pourra autofinancer ses investissements puisque sa rentabilité est trop faible.
Et inversement, si le taux de marge augmente, les actionnaires peuvent anticiper une hausse des dividendes et donc ils vont accorder à l'entreprise de nouveaux financements.
Si le chômage est faible, le rapport de force est favorable aux salariés puisque les entreprises éprouvent des difficultés à recruter du personnel. Les entreprises étant en concurrence, elles sont obligées d'augmenter les salaires, ce qui peut générer un cercle vertueux comme lors des 30 Glorieuses. L'augmentation des salaires se traduit par une augmentation de la demande qui pousse les entreprises à produire plus et à embaucher. Mais si cette augmentation des salaires est trop forte, alors les entreprises remplacent l'homme par la machine qui peut contribuer à une hausse du chômage.
Peut-être, mais par contre, dans les périodes de fort chômage, comme aujourd'hui, le rapport de force est favorable aux entreprises. Celles-ci peuvent faire du chantage à l'emploi et donc imposer à leurs salariés une stagnation des salaires, voire une augmentation de la durée du travail. Elles sont plus compétitives du point de vue des prix et peuvent alors gagner des parts de marché face à leurs concurrents espagnols et italiens. Mais cette course est déjà perdue dans les entreprises chinoises dont la compétitivité du prix est inaccessible aux entreprises françaises vu la faiblesse des salaires et l'absence de production sociale en Chine. De plus, les salariés peuvent être mécontents de cette stagnation de leur pouvoir d'achat. Ils sont moins motivés, moins performants, ce qui peut conduire à une baisse de la compétitivité de qualité.
On comprend donc que la question est complexe et que malheureusement, il n'existe pas de réponse simple. Certains économistes avancent même l'idée qu'il faudrait agir sur le coût du travail de façon différente suivant le secteur, en fonction de la concurrence étrangère.
Selon cette analyse, il faudrait baisser les charges pesant sur les entreprises exposées et les augmenter sur les entreprises qui sont protégées de la concurrence étrangère.
Les entreprises françaises sont aujourd'hui confrontées à un déficit de compétitivité qui leur fait perdre des parts de marché. Alors, est-il possible de restaurer la compétitivité ? Garance et Yael vont nous expliquer cela.
Je souhaiterais revenir sur le constat défavorable qu'a opéré l'organisme de réflexion officielle France Stratégie sur la compétitivité des entreprises et la croissance durant la décennie 2000. On remarque que les parts de marché se sont stabilisées, mais après une forte chute, et que le déficit commercial a amplement cru, même s'il se stabilise en fin de période. Tout le problème est que cette situation ne peut en aucun cas être durable. Un pays ne peut vivre avec un déficit commercial aussi important, sans être sanctionné par des créanciers. Il est donc impératif de restaurer la compétitivité des entreprises.
Comme tu le dis, la France a accumulé des dettes car elle a enregistré le solde commercial le plus déficitaire de son histoire. C'est un coup assez dur pour l'économie du pays, qui traduit une dégradation de la compétitivité de la France par rapport à ses concurrents européens.
Tu as raison, les écarts de compétitivité avec l'Allemagne se sont réduits et les entreprises ont pu restaurer en partie leurs marges, grâce à la mise en œuvre du CICE. Le gouvernement a pour la première fois, depuis quelques années, enfin reconnu que les charges sociales étaient en France beaucoup trop élevées, qu'elles nuisaient à la compétitivité de nos entreprises, dont les prix étaient là aussi beaucoup trop élevés par rapport à leurs concurrents, non seulement chinois mais aussi espagnols, italiens et que dire des roumains. Tout cela parce que le financement de la protection sociale qui pèse sur les salaires n'est pas maîtrisé et représente une charge insupportable. Le CICE a permis d'entraver cette évolution négative, mais il n'est en aucun cas insuffisant, même s'il représente pour la première fois une inversion des tendances. Les charges salariales ont enfin baissé sur les salaires plus bas, ce qui pourrait permettre aux entreprises de répercuter cette baisse par des charges dans leurs prix pour conquérir des nouvelles parts de marché, donc à terme embaucher, si la compétitivité prix et la restauration de la croissance et l'emploi seront préservées. Le gouvernement doit en avoir conscience et mettre en œuvre des mesures beaucoup plus ambitieuses.
Oui, c'est sûr, l'Allemagne se porte beaucoup mieux que la France. C'est le premier exportateur mondial par habitant. Sa balance commerciale est structurellement excédentaire.
Oui, mais tu as oublié de dire qu'au début des années 2000, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Les salaires augmentaient trop vite et les entreprises allemandes étaient plus compétitives. Le gouvernement a alors pris des mesures à la hauteur du défi à relever. Il a bloqué les salaires, ce qui a permis de restaurer la compétitivité des entreprises, leurs marges. Dès lors aujourd'hui, alors que la progression des salaires n'était que de 1,2% par an sur la décennie 2000, elle est depuis 2009 de 2,6%. La France a suivi l'exemple inverse. Elle a augmenté ses salaires alors que la compétitivité des entreprises était insuffisante. Le résultat, une multiplication des faillites, un processus de désindustrialisation et une augmentation du chômage non contrôlé.
Ainsi, selon toi, quand on observe la compression des salaires en Espagne et en Italie, les entreprises françaises n'ont plus qu'à faire leur bagage dans cette course de la compétitivité. On constate d'ailleurs une multiplication des implantations en Espagne et en particulier en Catalogne. Pour autant, l'Espagne n'est pas connue pour la qualité de ses produits, son niveau d'innovation est extrêmement faible. Si la France suit le chemin tracé par l'Espagne, l'avantage compétitif des Espagnols compte sur nous aujourd'hui sera remis en cause. Les Espagnols perdront les clients français. Mais quels clients les entreprises françaises auront-elles attirés ? Sûrement pas les chômeurs espagnols, ni les consommateurs français dont la rémunération aurait baissé. On a ici un jeu à somme négative quand seuls les Allemands appliquent la stratégie du passager clandestin, c'est-à-dire baisser leur salaire pour piquer les parts de marché de leurs voisins. Cela fonctionne. Par contre, les Espagnols, les Italiens aujourd'hui et les Français demain appliquent la même stratégie. Cela ne fait que des perdants. Personne n'améliore sa compétitivité prix et tout le monde perd des clients dont la rémunération devient insuffisante. Cette course est d'autant plus stupide que nous ne pouvons jamais baisser nos salaires au niveau des Roumains, des Indiens ou des Chinois.
En effet, tu as raison. Mais pour que les entreprises améliorent leur compétitivité qualité, il faut qu'elles innovent. Or, la recherche est très coûteuse. Comme les marges des entreprises se sont nettement dégradées, celles-ci ne peuvent ni investir, préparer l'avenir, ni donc améliorer leur compétitivité qualité. En conséquence, l'Hexagone voit son image de marque se détériorer auprès des investisseurs étrangers, qui le voient non seulement comme un pays dont la compétitivité s'effondre, mais aussi comme un centre conflictuel où la place du dialogue social et les conflits sont nombreux. Il voit aussi négativement le coût et les temps de travail français.
Oui, mais je tiens à rappeler que si la France se classe au 7e rang des 34 pays que forme l'OCDE au niveau de la compétitivité qualité, celle-ci se dégrade rapidement, en particulier quand on compare aussi bien à la Suisse qu'aux pays scandinaves ou à la Corée du Sud. Quelques entreprises françaises sont présentes aujourd'hui sur le marché ultra innovant des technologies, de l'information et la communication. quelles entreprises françaises seraient capables de concurrencer Apple, Samsung? La conséquence, la France classe seulement 55 secteurs sur 102 pour la compétitivité qualité contre les prix comme l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et plein d'autres qui en classent, eux, 85 ou plus. Dès lors, le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui devrait améliorer la compétitivité prix des entreprises françaises, se trouve objectif. Il faut certes que les entreprises françaises soient rentables, c'est une condition nécessaire, mais encore faudrait-il qu'elles investissent dans la recherche et le développement. Or aujourd'hui, trop d'entre elles préfèrent récompenser leurs actionnaires en leur versant des dividendes. Une mesure comme le CICE qui, eux, devrait être donc versée sous condition, afin que les entreprises vraiment les baissent les cotisations sociales pour restaurer leur compétitivité qualité, dont la dégradation se poursuit depuis trop longtemps.
Le Brexit, l'élection de Donald Trump, traduit une montée du vote populiste qui s'explique en particulier par le développement des inégalités de la pauvreté. Nous allons comprendre comment le partage de la valeur ajoutée influence les inégalités grâce à Hugo et Pavina.
Alors Hugo, est-ce que pour toi le partage de la valeur ajoutée influence les inégalités?
Oui, pour moi ce partage est l'un des plus importants vecteurs d'inégalités.
Ah bon? Je demande à voir alors, quand on sait que les inégalités en France se retrouvent surtout sur les patrimoines, les revenus, l'éducation ou encore la santé.
D'accord, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. À l'image de l'Europe, en France, on mesure le degré d'inégalité en calculant le coefficient de Gini.
Qu'est-ce que c'est tout d'abord ce coefficient?
Le coefficient de Gini tient son nom de Corrado Gini, un statisticien italien.
D'accord.
Il mesure la dispersion de distribution de revenus dans une population. Plus simplement, il calcule les évolutions des revenus pour montrer les inégalités économiques au sein d'une même population.
D'accord, je comprends mieux à présent.
Bon, je reprends. En France, les inégalités dépendent du partage de la valeur ajoutée. Plus la part du travail augmente, plus la part des salaires s'accroît au détriment des revenus du capital. Donc, plus le coefficient de Gini diminue, donc les inégalités. Inversement, lorsque la part revenant aux salariés diminue, les inégalités, donc le coefficient de Gini, augmentent. C'est la seconde situation qui se retrouve aujourd'hui dans les principaux pays du monde et en France dans une moindre mesure.
Dans tous les pays? Non, c'est trop simpliste. En Tchécoslovaquie, plus la part du travail augmente, plus les inégalités augmentent.
Oui, certes, Pamina, mais cela reste une moyenne, ce qui veut dire que c'est vrai dans la plupart des pays, mais qu'il y aura toujours des exceptions.
D'accord, admettons. Mais la France n'est pas le mauvais élève de la classe puisqu'elle a un coefficient de Gini égal à 0,31, c'est-à-dire en dessous de la moyenne faite par l'Organisation de coopération de développement économique qui est de 0,32. Les pays anglo-saxons sont beaucoup plus inégalitaires.
Oui, seulement les Français s'insurgent en raison de la hausse des revenus des grands patrons des multinationales qui s'enrichissent alors que les résultats des entreprises ne sont pas à la hauteur. Pour justifier la hausse de leur rémunération, ils augmentent les profits en opérant des licenciements que certains qualifient de boursiers, c'est-à-dire que quand une entreprise annonce des licenciements, le cours de son action progresse immédiatement.
Ah bon, tu en es sûr? Aurais-tu un exemple?
Oui, je vais te parler de Carlos Sainz, qui est le PDG d'entreprise Nissan Renault. Ce monsieur gagne par ses primes jusqu'à 15 millions d'euros. Ça serait l'équivalent du salaire de 1000 salariés smicards. Je te rappelle que le SMIC est aux alentours de 1200 euros.
Oui, seulement là tu me parles de la France, mais il y a aussi des problèmes aussi importants dans notre pays. Aux États-Unis, par exemple, j'ai entendu que dans les hedge funds de Wall Street, un patron engrangerait jusqu'à 1 milliard de dollars à lui tout seul. N'est-ce pas exorbitant pour une seule personne?
Oui, je suis d'accord, mais toutes ces personnes qui s'enrichissent l'ont mérité.
Elles gagnent trop, à mon simple avis, d'autant plus que, contrairement à ce que tu dis, le but d'une hedge fund n'est pas de créer de la valeur ajoutée, mais de spéculer, de racheter des entreprises et de les découper pour les revendre en faisant des profits.
Oui, mais ces personnes font progresser la croissance de leur pays, elles.
Justement, c'est ça la question que se posent le gouvernement et les économistes. Comment équilibrer la société entre ceux qui gagnent beaucoup et qui font progresser la croissance et ceux qui gagnent moins et qui font, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, contribuent eux aussi à la richesse de la société?
Oui, cette situation est très compliquée à gérer. Mais en Allemagne, par exemple, le pays le plus riche en Europe et où les 1% les plus riches de la population détiennent 14% de la part des revenus du pays. C'est bien la preuve que les inégalités peuvent contribuer à la croissance.
Mais n'oublie pas que les inégalités aux États-Unis sont scandaleusement élevées, alors que la croissance n'est pas vraiment au rendez-vous. L'enrichissement s'explique surtout par la spéculation qui a permis à la bourse de New York d'atteindre un plus haut historique, sans que cela profite à la population. Au contraire, on élit Trump et on prépare le futur krach boursier. Les 10% les plus riches de la population gagnent 9,2 fois plus que les 10% les plus pauvres gagnent et l'écart ne cesse de croître.
Contre 7,4 seulement en France.
Oui, mais il faut faire mieux. Lorsqu'on se rend compte qu'au Danemark, ce coefficient n'est que de 5,2.
Bon voilà, Pamina, je pense t'avoir démontré que le partage de la valeur ajoutée d'un pays influe sur les inégalités de ce pays et pas forcément dans un sens positif.
Oui, c'était assez convaincant.
Maintenant, nous allons essayer de savoir pourquoi les entreprises françaises se sentent handicapées par rapport à leurs concurrents. Une réponse à cela de Olivia et Hugo.
En France, pendant la crise de 2008, notre pays a fait partie des pays dont le PIB a le moins chuté en Europe. Cela traduit la capacité de notre économie à faire face à un choc extérieur, par exemple un choc financier même majeur.
Je suis complètement d'accord. La France a mieux résisté que certains de ses partenaires, comme l'Espagne, à la crise de 2008. Par contre, sa capacité à rebondir est insuffisante. Contrairement à l'Allemagne, la France est toujours proche de la récession et menacée par la déflation. De plus, la répartition de la valeur ajoutée n'est pas sans poser problème. Ainsi, après le maximum de 1980, la part que représentent les salaires dans la valeur ajoutée a fortement diminué, alors que pendant ce temps, les dividendes versés aux actionnaires ont fortement augmenté et que les salaires des grands patrons du CAC 40 atteignent des niveaux très élevés. Ils ont augmenté de 20% en 2015. Ainsi, même en temps de crise, les grands patrons n'observent pas de baisse sur leurs salaires.
Je constate que tu serais partisan d'une augmentation des salaires, mais c'est une voie sans issue, puisque la production de notre pays est insuffisante. En particulier car la compétitivité de nos entreprises est trop faible. Je voudrais te rappeler aussi que le poids des charges sociales dans la valeur ajoutée est plus élevé qu'en Allemagne, en Espagne ou encore en Italie. Ainsi, les entreprises françaises sont handicapées par le poids des charges, des contraintes réglementaires qui ne cessent de s'alourdir, par exemple la réglementation sur la pénibilité, et enfin une durée de travail plus basse que chez nos partenaires.
Parlons chiffres, si tu veux. Les salaires augmentent en Allemagne autant qu'en France. Or, nos voisins d'Outre-Rhin occupent une position de leader mondial en termes de compétitivité-qualité. Par contre, la France est malheureusement très loin dans le classement. L'augmentation des salaires nous conduirait à transformer les salariés en consommateurs, comme l'avait prouvé le Fordisme. Ford ne disait-il pas « Mes ouvriers sont devenus mes meilleurs clients le jour où j'ai décidé d'augmenter leur salaire, relancer la consommation, leur salaire, j'ai réussi la meilleure affaire de ma vie ». Ainsi, non seulement les salariés pourraient relancer la consommation grâce à la hausse de leur pouvoir d'achat, mais en plus, ils seraient plus motivés, donc plus performants, et produiraient des biens de meilleure qualité.
Je ne pense pas que raviver un phénomène qui est apparu au début du XXe siècle et qui est entré en crise à la fin des années 60 pourrait être utile à une économie qui a profondément changé. Le gouvernement semble d'ailleurs être d'accord avec moi, car il reconnaît bien que le problème de l'économie française aujourd'hui est l'insuffisance de la rentabilité de l'offre, puisqu'il a instauré le CICE qui a pour objectif de diminuer les prélèvements opérés sur les entreprises de 20 milliards d'euros par an. Cette mesure permettrait, selon ses promoteurs, non seulement d'améliorer la conductivité de prix des entreprises, mais aussi de doper la croissance et donc, à terme, d'augmenter les investissements et les emplois. Cette mesure va donc dans le bon sens puisqu'elle vise à remédier aux principaux problèmes de l'économie française, un partage de la valeur ajoutée trop favorable aux salariés.
Je ne suis pas réellement sûr que cela soit un avantage, puisque le MEDEF avait assuré que cette réforme se traduirait par la création de nombreux emplois, entre 1 et 3 milliards. 3 millions. Or, 3 ans plus tard, avec un minimum de recul, on se rend compte que ces chiffres sont bien trop surestimés. À peine 100 000 emplois ont été créés, c'est-à-dire entre 10 et 30 fois moins que ce qui avait été anticipé. On comprend donc pourquoi notre situation est si catastrophique quand on se compare aux Allemands et aux Américains dont le taux de chômage est de moins 5%.
Certes, mais quand vous étudiez l'excédent brut d'exploitation en France, il est beaucoup plus bas que chez nos partenaires. Dès lors, si l'on augmente les salaires, nos entreprises ne pourront plus épargner et autofinancer leurs investissements. Les investisseurs étrangers refuseront de placer leurs capitaux dans des entreprises si peu rentables. La recherche en pâtirait et finalement la compétitivité, qui est la qualité de notre pays, serait dégradée. Contrairement à ce que tu affirmes, les entreprises du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont des taux de marge deux fois plus importants qu'ils ne le sont en France. Comme les entreprises se portent mieux, puisqu'elles ont fait des efforts dans le passé, elles peuvent donc se permettre aujourd'hui de récompenser leurs salariés en augmentant leurs salaires. La France, elle, a fait l'inverse. Elle a d'abord augmenté les salaires alors que les entreprises étaient en mauvaise santé. La conséquence est aujourd'hui une multiplication des faillites ou alors des délocalisations qui se répercutent sur l'envolée du chômage.
Puisque la valeur ajoutée mesure la création de richesses dans un pays, nous attendons a priori, à ce que la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation durable du PIB, se traduise mécaniquement par une diminution de la pauvreté. Thomas et Dorian vont nous expliquer maintenant pourquoi les choses sont en réalité beaucoup plus complexes.
Bonjour, alors je me base sur une théorie économique qui est celle du ruissellement. Cette dernière est d'inspiration libérale et consiste tout simplement à constater que les revenus des plus riches sont réinjectés dans l'économie. Ces revenus, avec cette théorie, permettent d'être réversés et profitent finalement aux plus pauvres.
Mais peux-tu nous expliquer réellement ce qu'est cette théorie ?
Les entrepreneurs innovent, motivés par le profit, sont prêts à prendre des risques. Ils introduisent de nouveaux produits, comme l'entreprise Apple, avec de nouvelles méthodes de production qui certes les enrichissent, mais surtout dopent la croissance, l'emploi et profitent donc aux plus pauvres.
Je te rappelle que l'Australie est un pays libéral. Sa croissance est positive et elle est même supérieure à celle des États-Unis. Pourtant, la pauvreté est très présente. Une personne sur 10 vit sous le seuil de pauvreté.
Écoute, sans parler du cas de l'Australie, tous les pays qui décollent économiquement sont dans un premier temps de plus en plus libéraux. Les riches investissent, créent des emplois et cela permet bien sûr une augmentation de la valeur ajoutée. Au Brésil, la croissance est en forte augmentation depuis 2004. Les économistes y constatent une baisse sans précédent de la pauvreté.
Oui, mais la situation du Brésil était tellement catastrophique que seule une évolution positive était possible.
Mais alors, que dis-tu des États-Unis ? Je te rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient en pleine croissance et cette dernière coïncide avec une baisse des inégalités.
Cette période de l'histoire ne coïncide pas avec la théorie du ruissellement. En effet, il y a eu une augmentation des impôts, alors que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, la théorie du ruissellement consiste à favoriser les riches pour qu'ils réinjectent leur argent dans l'économie et ainsi qu'ils fassent augmenter la croissance.
Cette théorie a tout de même été reprise plus de 20 ans plus tard par Ronald Reagan dans les années 70. La richesse des classes supérieures finit tôt ou tard à profiter aux pauvres.
Ah, ça c'est sûr, ils en ont profité. Je te rappelle que dans un même temps, les inégalités ont augmenté.
Je te rappelle que George Bush avait instauré des avantages fiscaux pour les entreprises comme le préconise Arthur Laffer, afin qu'ils créent des emplois et donc, par le même temps, augmenter la croissance et réduire les inégalités.
Tu fais bien de me le rappeler. Je te rappelle que HP en a profité pour supprimer 4500 emplois. Et quelle réduction des inégalités ! Pourtant, il serait utile de réduire la pauvreté parce que cette dernière freine la croissance et elle peut créer une bulle spéculative qui entraîne par conséquent une crise.
Tout de suite, Naïma et Chloé vont tenter de nous éclairer sur un thème bien polémique. Les entreprises se plaignent que leurs profits sont trop faibles et les syndicats leur répondent que quand les profits augmentent, elles n'investissent pas, mais elles distribuent à leurs actionnaires. Mais qu'en est-il vraiment ?
Les investissements permettent d'acquérir de nouveaux moyens de production, d'améliorer le rendement ou de placer des capitaux, dans une activité économique ou dans une entreprise par exemple. Le dividende est le bénéfice réservé aux actionnaires. Si l'État baisse les charges salariales, les entreprises pourront faire plus de profits, ce qui leur permettra de plus investir évidemment.
Je n'en doute pas, mais d'après les chiffres de l'INSEE, 85% des profits partent en dividendes. Cela veut dire qu'il y a 2,6 fois plus de dividendes que d'investissements.
Certes, mais les entreprises peuvent changer leur façon de répartir les profits. Elles sont en capacité d'investir. Le monde économique a besoin de confiance et surtout de constance.
Entre 1988 et 2012, le taux d'autofinancement était entre 80 et 100%, contrairement au taux d'investissement qui était seulement de 15 et 21%. Cette différence est trop importante. Au début des années 80, les dividendes représentaient la moitié des actions des entreprises.
Mais vous savez ce qu'on dit. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain.
Cette affirmation est très pertinente, mais il faut pouvoir mettre en place ces projets. Ce n'est pas toujours le cas et chose facile, surtout lorsque nous sommes en temps de crise.
Aujourd'hui, même en temps de crise, comme vous dites, le CICE permet aux entreprises d'investir. C'est un vrai avantage.
Rappelons ce qu'est le CICE, car je doute que tout le monde sache ce que cela signifie.
Écoutez bien, le CICE est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. En effet, certains ont tendance à l'oublier, mais c'est un avantage fiscal qui baisse les charges sur les salariés et donc qui permet aux entreprises d'investir davantage, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Comment expliquer le manque d'investissement des entreprises alors qu'il existe cet avantage fiscal ? Les chiffres sont là, on ne peut pas les renier.
C'est bien la question que se posent tous les économistes en ce moment.
Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous un représentant d'un syndicat de salariés, Camille.
Oui, donc bonjour, je suis représentante d'un syndicat de salariés depuis quelques années.
Nous avons aussi avec nous la directrice d'une entreprise, Eve.
Donc bonjour, je me présente, je représente les patronats et les entreprises. Je suis dans le métier depuis environ 10 ans.
Et pour finir, un économiste, Monsieur Lafont.
Bonjour, donc moi je vais essayer aujourd'hui de prendre un peu de hauteur avant que les deux partenaires sociaux n'en viennent, non pas aux mains, mais au moins dans une discussion peut-être un tout petit peu violente, voire débattue. Alors d'abord, la situation économique française est certes aujourd'hui extrêmement mauvaise, mais la France n'est pas la seule à éprouver des difficultés. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelles sont les raisons de ces difficultés. Alors, depuis une trentaine d'années, la France a fait des efforts considérables pour essayer de diminuer la part de la valeur ajoutée qui revenait aux salariés. Elle a obtenu des résultats non négligeables et au début des années 2000, la France était très compétitive par rapport à ses partenaires, en particulier par rapport à l'Allemagne. Mais, suite à la crise de 2007, la situation de la France s'est fortement dégradée. Et la France a certes bien résisté à la crise, comme l'ont dit vos précédents intervenants, mais la France a éprouvé des difficultés à restaurer la rentabilité des entreprises et au début des années 2010, on était dans une situation où les entreprises françaises multipliaient les faillites, délocalisaient, et on avait une désindustrialisation extrêmement forte en France, qui résultait du fait que nos entreprises subissaient des hausses de coûts très importantes et qu'elles n'étaient donc plus compétitives. La solution préconisée par le MEDEF, que Madame Ève représente ici, était donc de remettre en cause tout un tas d'avantages sociaux, de revenir sur les 35 heures, comme le préconise aujourd'hui François Fillon. Mais cette solution était véritablement considérée par les partenaires sociaux du côté du travail, Madame Camille, comme quelque chose d'absolument insupportable. Alors le gouvernement, que je représente ici, a essayé de prendre des mesures qui sont, on va dire, médianes. Il a certes considéré que la situation des entreprises devait être préservée, et donc il a mis en œuvre deux mesures. Le CICE qui vise à baisser les charges sociales sur les entreprises, mais aussi une mesure qui est la loi travail, qui visait à faciliter les licenciements pour inciter les entrepreneurs à embaucher. Pour autant, il n'est pas allé aussi loin que le demandaient les patrons, parce qu'ils considéraient que sans cela, eh bien, il allait dégrader fortement la situation. Alors, qu'en pensez-vous, Madame Ève ?
Oui, en effet, il faut que je sois dans la compétitivité et dans la rentabilité. Donc j'ai des objectifs, que mes investissements, que mes rendements soient équitables et rentables, qu'il y ait bien évidemment du bénéfice pour ne pas fermer et ne pas licencier mon personnel. Donc ça apporte différentes conséquences. Il faut qu'il y ait moins d'impôts, moins de cotisations sociales et une part évidemment moins importante aux salariés.
Sauf que si la part salariale est en baisse, votre entreprise pourrait faire faillite parce que des salariés qui ne seraient pas satisfaits de leur salaire par rapport à leur travail fourni pourraient partir de votre entreprise, en particulier ceux qui sont les plus qualifiés et qui n'auraient pas de mal à retrouver du travail. Et puis, une entreprise en manque de main-d'œuvre, elle ne serait pas très bien au niveau de la compétitivité qualité. Donc, leur activité baisserait.
En effet, si les salaires progressent moins, c'est à cause de l'équité et de l'efficacité. Le capital des entreprises n'est pas modernisé puisque nous n'en avons pas les moyens.
Oui, donc vous pensez qu'en diminuant les salaires, l'entreprise gagne en compétitivité prix et qu'elle vendrait plus. Mais alors que si
le il faut que salaires, je baisse, il faut que je baisse.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si les salaires des employés est moins important, leur pouvoir d'achat va baisser et donc il y aura forcément moins de consommation.
Oui, mais il faut que je baisse les salaires pour l'emporter dans la concurrence. Il faut que les salariés, est-ce qu'ils sont prêts il faut se poser la question si les salariés sont prêts à avoir une part des salaires moins importante.
Ah ben non, justement, par rapport à leur travail fourni, c'est pas...
Oui, mais je vous parlais de baisser les salaires, donc... Le travail sera moins compétent, moins productif. Si vous travaillez que dans le but de l'argent, ça ne sert à rien. Je préfère avoir des ouvriers engagés, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils se donnent à fond, qu'ils ne font pas le travail à moitié.
Mais justement, si vous voulez un personnel de qualité, il faudrait baisser la part des salaires.
Alors, je propose que nous écoutions à présent Monsieur Lafont.
Moi, je suis ravi parce que, pour la première fois, j'entends Madame Ève qui veut augmenter le salaire des ouvriers pour qu'ils soient plus motivés, plus compétents. Et Madame Camille, elle, qui est prête à faire des efforts. Donc, finalement, qui est le représentant des syndicats? Qui est le représentant des patrons? Est-ce que vous avez changé vos rôles?
Non, pas du tout. Si mes impôts augmentent, je dois donner une part moins importante aux salariés. Donc, je ne suis pas compétitive. Ce n'est pas intéressant pour moi. Je vais faire faillite, m'installer à l'étranger et licencier mon personnel.
Ah, donc je suis rassuré. Vous voulez toujours faire de l'argent?
Ah, mais bien sûr. Sinon, autant partir, autant devenir ouvrier et me trouver un propre patron.
Oh, et Madame Camille, vous voulez devenir patron ou vous êtes prête à vous faire exploiter?
Ah non, me faire exploiter quand même pas. Hein. Il faut que je sois payée et bien payée par rapport à mon travail. C'est pas...
Oui, je vais bien payer votre travail si votre travail est fait correctement, si vous vous investissez. Forcément, je vais vous donner le salaire en fonction de ma production. Si j'ai une hausse des rendements, je vais forcément mieux vous payer.
Mais je n'investirai pas si j'ai un salaire dès le début qui n'est pas conséquent, je n'aurais pas envie.
S'il y a une mauvaise compétitivité, ça ne vaut vraiment pas le coup. Il faut qu'il y ait une bonne répartition de la valeur ajoutée.
Et Madame Ève, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que vous produisiez des biens de qualité et donc que vous embauchiez des gens performants et bien payés? Est-ce que donc peut-être que vous n'avez pas fait les efforts pour investir suffisamment au départ?
Ben si, mais il faut bien sûr que je paye mes dettes. Si je dois payer les actionnaires, je dois payer les ouvriers, je dois payer mes impôts.
Oh, on va vous plaindre.
Ah, ben bien évidemment, si on se met à plaindre tout le monde.
Oui, mais justement, vous devriez investir plus. Au lieu de...
Enfin... Justement, j'investis plus. Imaginez, je licencie, j'ai trois ouvriers. J'en licencie un, comme ça je peux payer mieux les autres. Et par exemple, je vais utiliser une petite part pour acheter des machines pour leur permettre un meilleur travail.
Mais au lieu de licencier quelqu'un, est-ce que vous ne pourriez pas plutôt diminuer les dividendes aux actionnaires qui sont passés de 3% en 1977 à 8% de la valeur ajoutée maintenant?
Si je ne paye pas assez mes actionnaires, j'en aurai moins. Du coup, qui dit moins d'actionnaires, l'entreprise aura un moins gros chiffre d'affaires.
Surtout que vous avez bien compris que le principal actionnaire de Madame Ève, c'est Madame Ève elle-même, qui n'a pas envie de voir ses profits et donc ses dividendes baisser.
Je ne vais pas baisser mes profits.
Mais Madame, tout à l'heure, vous avez dit que vous préférez des ouvriers qui ont envie de faire ce qu'ils font. Et non, pas forcément pour l'argent. Mais vous, ce que vous faites, justement, dans ce cas-là, c'est bien pour l'argent, pas parce que cela vous plaît.
Ben, et forcément, si je veux que mes ouvriers soient contents, soient compétents, qu'ils aient du travail, mais si les ouvriers sont compétents, qu'ils apportent de la main-d'œuvre, qui contribuent au chiffre d'affaires de l'entreprise, je vais forcément être content. Je vais pouvoir investir plus, participer à la baisse du chômage, embaucher plus de salariés.
Vous disiez juste avant que vous vouliez en licencier un sur trois.
Mais forcément, il faut trouver un juste équilibre. Je vais peut-être en licencier un justement pour augmenter mes rendements.
L'équilibre, c'est plus de profit pour Madame Ève et plus de chômage pour ses salariés.
Donc je vous signale que l'équilibre, c'est il faut penser à l'entreprise, mais il faut aussi penser aux salariés. Je suis d'accord qu'il ne faut pas penser qu'à l'un ou qu'à l'autre.
Madame Gamy, qui représentait donc un syndicat de salariés, vous préféreriez une augmentation des salaires ou plus d'embauches pour plus d'ouvriers?
Moi, je préférerais quand même plus d'embauches pour limiter le chômage, même si une hausse des salaires serait pas mal aussi. Donc,
si vous disiez qu'il faut que je baisse un peu les salaires, moi...
Je n'ai pas dit que je voulais les baisser.
Oui, bon, si vous voulez les augmenter, pardon. Je veux bien accepter de les diminuer. Dans ce cas-là, est-ce que vous vous engagez à mieux travailler, à être plus dans votre travail?
Bien sûr, si le salaire est conséquent.
Et si le salaire est conséquent, ça veut dire que vous travaillerez plus, que vous ne ferez pas de grève?
Non, mais il n'y a pas des grèves tout le temps non plus. Hein.
Si, quand même, vous pouvez constater quand même aujourd'hui que ce n'est pas simple. Hein.
Parce que
vous avez beaucoup de demandes,
mais pas dans chaque entreprise.
Enfin, vous trouvez que les salariés n'ont pas le droit de se révolter quand quelque chose ne leur plaît pas?
Si, bien évidemment, ils ont le droit de se révolter, mais avec modération.
Mais vous venez de dire que vous ne voulez pas que vos salariés fassent de grève.
Je n'ai pas dit que vous déformez mes propos. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils en fassent tout le temps, qu'il faut qu'il y ait un équilibre.
Pourtant, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas non plus tout le temps.
Là, je vais prendre la défense de Madame Ève, parce qu'il faut bien comprendre que... En France, aujourd'hui, on fait beaucoup plus grève que l'on ne fait dans les pays qui nous concurrencent. Et donc, c'est vrai que l'image sociale de la France est quand même très fortement dégradée et que les investisseurs étrangers hésitent à venir en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Camille? Est-ce que vous voulez attirer des investisseurs étrangers ou est-ce que vous voulez que Madame Ève délocalise son entreprise à l'étranger?
Non, enfin, il ne faudrait pas qu'elle délocalise son entreprise parce que... certains salariés ne pourraient pas suivre, mais après...
Et vous, Madame Ève?
Eh ben, moi, je suis totalement d'accord qu'il faut que j'adapte mes salaires en fonction du travail. Parce que si, je suis un entrepreneur, je tiens une entreprise au Mexique, aux États-Unis, il est plus intéressant pour moi d'aller au Mexique et de payer des salaires, de payer plus de personnes et avec un salaire moins élevé. Donc, je suis d'accord qu'il faut aussi prendre en compte le budget qu'on a, quoi.
Que vous manquerait-il pour rester compétitive en France ?
Par exemple, en France, ben justement, par exemple, avoir plus d'ouvriers qui se motivent plus, qu'ils soient d'accord avec les décisions que je prends, par exemple, de baisser quelques salaires pour un temps et de les augmenter ensuite, qu'ils s'adaptent, qu'on trouve un juste équilibre, de réduire les inégalités pour avoir un objectif vraiment qui apporte à chaque côté, à chaque... Il faut vraiment ne pas nuire à la compétitivité pour qu'on soit dans un contexte de concurrence qui est une des priorités du gouvernement aujourd'hui.
Donc vous préconisez aujourd'hui l'augmentation d'embauche dans votre entreprise ainsi qu'une baisse des salaires pour ensuite augmenter les salaires, c'est ça ?
Par exemple, si jamais ça pourrait être une situation qui se présente.
Et que pensez-vous, par exemple, des personnes qui sont dans le besoin maintenant ? C'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent avoir un salaire... Okay.
Plus conséquent. Je peux aussi m'adapter et par exemple augmenter les salaires pour un temps, mais du coup prochainement devoir les baisser parce que sinon je vais faire faillite quoi et licencier mon personnel.
Mais autant qu'il reste stable.
Mais s'il reste stable, comme vous dites, si je garde mes salaires stables, ça veut dire que au bout d'un moment je vais licencier. Si je maintiens les salaires, que c'est pas possible pour moi, au bout d'un moment je vais licencier.
Vous venez de dire que vous vouliez les augmenter après les baisser.
Fonction de la condition que j'ai.
Madame Camille, ce que vous explique Madame Eve à juste titre, c'est que quand son entreprise est en bonne santé, elle peut embaucher, elle peut payer des salaires beaucoup plus élevés. Vous, si demain l'entreprise de Madame Eve est en difficulté, est-ce que vous préférez voir votre salaire diminuer comme les profits de Madame Eve vont diminuer, ou est-ce que vous préférez voir un wagon de licenciement, des suppressions d'emplois, voire des délocalisations ?
Ah non, je suis tout à fait d'accord.
Donc vous êtes prêt à faire des efforts ?
Je suis prête à faire des efforts, mais à juste titre.
C'est-à-dire ?
Mais tant que, enfin, pour les salaires.
Oui.
Il faut pas non plus que par rapport au, enfin, il y a vraiment un écart entre le travail qu'on fournit et notre salaire.
Et c'est là qu'on a un des vrais problèmes de l'économie française, c'est le manque de confiance entre Madame Ève et Madame Camille. Madame Ève croit que les salariés ne font rien et sont trop payés. Et Madame Camille croit que Madame Ève ne fait aucun effort, veut les licencier.
Ah mais quand même, vous y allez un peu fort quand même là. Je veux dire que on arrive quand même à essayer de trouver une solution. Là, on débat, on essaye quand même de défendre nos positions et de trouver un moyen d'avoir un équilibre et que chacun trouve sa part.
Oui, mais finalement, cet équilibre, est-ce qu'il profite à tout le monde ou est-ce qu'il profite uniquement à vous ou à Madame Camille ?
Mais c'est le problème d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inégalités. On essaye par des moyens, des solutions, de trouver une solution.
Très bien, je pense que le sujet est clos. Je vous remercie à tous les trois d'être intervenus aujourd'hui sur J'ai des infos. Merci.
Nous remercions aussi tous les reporters. Et franchement, je pense avoir appris beaucoup de choses aujourd'hui.
J'espère que vous aussi, derrière votre poste de radio, vous avez appris plus de choses sur la valeur ajoutée, mais également sur la situation économique actuelle en France. Et je vous dis au revoir et à bientôt sur J'ai des infos.
Au revoir.